Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. C'est le grand retour de Sedi Kaba, journaliste spécialiste de l'Afrique, de la région du Sahel, notamment notre ami Sedi Kaba, pour une nouvelle saison dans ce magazine. Avec lui, nous allons revivre les faits saillants de ces 7 derniers jours grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons par exemple au Mexique, à New York, au Soudan et en Guinée. Une semaine d'actualité à retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr ou sur votre plateforme préférée. Je vous conseille également l'application gratuite RFI Pure Radio. Mais avant d'écouter Sedi Kaba, partons pour l'Allemagne avant les élections législatives très importantes de demain qui marqueront la fin de l'ère Merkel. Un meurtre commis par un opposant aux restrictions sanitaires a secoué le pays ces derniers jours. La radicalisation d'une partie de la mouvance hostile aux mesures anti-Covid est dénoncée à Berlin. Pascal Thibault.
L'homme voulait acheter de la bière dans une station-service, mais le jeune étudiant à la caisse a refusé de le servir car le client ne portait pas de masque. Le quadragénaire a disparu furieux avant de revenir plus tard dans la soirée. Il porte cette fois un masque, mais l'enlève devant le comptoir pour provoquer une réaction de l'employé. Rappelé à l'ordre, le client sort une arme et abat froidement l'étudiant mort sur le coup. L'homme s'est livré dimanche à la police, qui ne disposait d'aucun antécédent à son égard. Il a déclaré qu'il se sentait acculé par les mesures prises contre la pandémie, qui portaient, selon lui, atteinte à ses droits. Ce meurtre suscite une vive émotion en Allemagne. En pleine campagne électorale, les candidats à la chancellerie, entre autres, ont condamné l'acte. Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a mis en cause la mouvance des libres penseurs, ou Querdenker, qui depuis près de 18 mois mobilise contre les restrictions sanitaires. Un mouvement qui s'est radicalisé. Sur les réseaux sociaux, des membres de cette mouvance célèbrent le meurtre du jeune étudiant.
Et ne manquez pas la session d'information spéciale élection allemande que vous proposera RFI demain soir avec notamment Carrefour de l'Europe. Frédéric Lebel sera accompagné de ses invités en direct de Berlin à 19h10, heure de Paris. Bonjour Sedi Kaba.
Bonjour Pierre-Edouard et bonjour à tous les auditeurs de RFI et de cette émission particulièrement.
Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission pour une nouvelle session. Je rappelle que vous êtes aussi auteur. Vous venez d'écrire notamment pour comprendre Boko Haram aux éditions L'Harmattan, avec votre fils Abdelkader Abba, et une nouvelle édition enrichie va sortir bientôt.
C'est tout à fait exact, et comme vous savez, entre le moment où j'ai publié cette première édition et maintenant, il y a eu deux événements majeurs dans la lutte contre Boko Haram et le terrorisme dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. C'est la disparition le 20 avril de cette année du président tchadien Idriss Déby, dont on connaît l'engagement dans la lutte contre le terrorisme. Et le deuxième événement d'importance qu'il y a eu, c'est le décès le 21 mai 2021 de Aboubakar Shekau, qui est le successeur de Mohamed Youssouf à la tête de Boko Haram. Il m'a semblé utile et important de faire une réédition de mon livre et d'enrichir avec ces deux chapitres consacrés à ces deux personnalités, et puis de profiter aussi pour corriger certaines insuffisances que j'avais constatées par rapport à la première édition.
En tout cas, je recommande ce livre qui est très instructif et qui nous apprend beaucoup de choses sur Boko Haram. On en a d'ailleurs parlé dans cette émission ces derniers mois, naturellement, et on en reparlera dans les mois qui viennent. Sedi Kaba, un mot de commentaire sur ce fait divers que j'ai voulu mettre en exergue cette semaine, qui montre un peu l'état de l'opinion aujourd'hui, l'opinion publique et de certains face à cette situation épidémique, pandémique.
Absolument. Je pense que vous avez très bien fait de mettre en évidence, plus qu'un fait divers, c'est une interpellation. Par exemple, pour moi qui ai fait le Covid, ce sujet me parle et autant en tant que personne attachée à la liberté individuelle, au respect de la libre opinion, je respecte le choix, autant je vois la question avec une sorte d'incompréhension. Comment on pourrait arriver à un meurtre parce que on n'est pas d'accord avec l'efficacité de la vaccination, et ça doit nous aider à réfléchir parce que dans le cadre du Covid, ce qui est le plus particulier, c'est que votre choix personnel engage aussi les autres. Donc il faut trouver un juste équilibre, et à mon avis, la société doit être capable de trouver ce juste équilibre sans qu'on arrive à des extrémités comme celle-là.
Sept jours dans le monde.
Nous allons effectuer effectivement notre voyage dans le monde qui a commencé en Allemagne. Donc, et là, nous allons partir pour la Russie où l'opposition a dénoncé lundi des fraudes massives aux législatives qui ont vu le parti du Kremlin, sans surprise, rafler une majorité des 2/3, point final d'un scrutin sur mesure dont avaient été exclus les détracteurs de Vladimir Poutine à Moscou, Anissa El-Jabri.
Russie unie a rempli sa mission, les élections ont été concurrentielles dans la transparence et la probité. Voilà en substance ce qu'a dit le porte-parole du Kremlin aujourd'hui. Quant au président qui avait à peine tenu un meeting avec le parti, Vladimir Poutine a simplement remercié les Russes pour, je cite, leur confiance. Question réglée donc pour le pouvoir et pas un mot pour la contestation du parti communiste. Arrivé deuxième au scrutin avec 20%, il dit refuser de reconnaître le vote électronique à Moscou. 2 millions de voix qui ont fait basculer la capitale russe du côté de Russie unie. Sa demande d'autorisation de manifester, elle, a été refusée pour cause de Covid. Reste qu'ils sont nombreux dans l'opposition à avoir retenu les leçons des mois derniers, la répression, les arrestations et l'exil. Pas d'appel à protester du côté du camp Navalny. Dans un message de son équipe sur Instagram, l'opposant emprisonné a surtout ironisé sur les résultats. Ses proches parlent, je cite, d'une Douma illégitime.
Parlons maintenant des réfugiés haïtiens. C'est dit que des centaines d'entre eux ont été expulsés par avion cette semaine vers Port-au-Prince par les autorités américaines. Avant d'arriver aux États-Unis, les migrants passent par le Mexique. Ils sont des milliers à y attendre de pouvoir passer la frontière. Correspondance de Gwendolina Duval.
Dans la ville d'Acuña, au nord du Mexique, à la frontière avec le Texas, ils sont plusieurs centaines de migrants haïtiens. Ils s'entassent dans un camp aux conditions extrêmement précaires et ne survivent que grâce à l'aide humanitaire. Ils attendent une ouverture et espèrent trouver le bon moment pour traverser le fleuve Rio Grande et rejoindre les États-Unis pour faire une demande de protection sans se faire expulser. Depuis plusieurs semaines, des milliers de migrants haïtiens s'accumulent dans les villes au Mexique. Au nord, à la frontière américaine, dans la capitale Mexico, ou au sud, comme à Tapachula, près du Guatemala. C'est une population particulièrement vulnérable. En fuyant Haïti, les migrants ont tout quitté. La majorité d'entre eux a fait un voyage très dangereux de plusieurs milliers de kilomètres et traversé de nombreux pays depuis le Brésil ou la Colombie. Les autorités mexicaines sont débordées par l'urgence de la situation et l'affluence record des migrants. Le pays procède lui aussi à des expulsions vers le sud quand presque 30 000 militaires mexicains se chargent de la surveillance des frontières.
Il faut ajouter notamment, c'est dit que Daniel Foote, l'émissaire américain en Haïti, a démissionné de ses fonctions après les expulsions décidées par son gouvernement, des expulsions d'Haïtiens des États-Unis. On avait cru qu'avec Joe Biden, les choses allaient changer un petit peu en la matière.
C'est tout à fait exact et on a été habité par l'espoir, d'autant plus que le nouveau président américain a arrêté la construction du mur à la frontière avec le Mexique et à régulariser les jeunes, les dreamers, à procéder à leur régularisation, a permis aussi aux familles de se retrouver. Les familles qui avaient été séparées sous Trump ont pu se retrouver. Et tout cela a suscité un énorme espoir de la part de ceux qui sont à l'intérieur des États-Unis, mais ceux qui avaient un projet d'y venir. Et aujourd'hui, la gestion policière et la gestion répressive de la question migratoire aux États-Unis pose justement un problème politique et pose aussi un problème d'efficacité. Moi, je suis persuadé que la question migratoire ne se résout pas par la bunkerisation, par l'enfermement. On a vu ailleurs que ce type de solution ne marche pas. Ça ne peut se résoudre que par la concertation, par une gestion intelligente, un juste équilibre entre l'humain, le politique et la façon dont on voit les choses aujourd'hui se faire ne me semble pas être la solution. 30 000 militaires sont mobilisés pour assurer la protection de la frontière et cela ne suffit pas. Donc ça prouve quand même qu'il y a un devoir peut-être de concertation avec Haïti et le fait que ce soit des Haïtiens quand même n'est pas anodin et ne doit pas être évacué, ça doit être pris en compte dans la réflexion puisque Haïti a été frappé par une cascade de malheurs, naturelle,
oui,
mais aussi par une gestion politique,
oui,
une situation politique dont les Haïtiens sont naturellement responsables, puisque en plus de l'assassinat du président Juvenal, il y a toutes ces bandes qui ont démantelé l'État haïtien aujourd'hui, qui font régner leurs lois à Port-au-Prince et dans les autres. Donc Haïti est un cas exceptionnel, mais la question migratoire doit être réfléchie, doit être gérée de façon intelligente pour qu'elle soit efficace.
Que dire après les élections à Moscou ?
Ah, les élections ont été sans surprise. Je pense que un autre résultat nous aurait surpris. Tout a été fait. Et comme dit quelqu'un, pour présenter, on n'organise pas des élections pour le perdre. Et je crois que Russie Unie a montré qu'en organisant les élections, il faut absolument les gagner.
Sédik Abba, mardi, en ouvrant la 76e Assemblée Générale, le secrétaire général de l'ONU a dit ses craintes de voir le monde se fracturer en deux blocs distincts. Sans les nommer, Antonio Guterres visait la Chine et les États-Unis, bien sûr. Les principaux intéressés ont tout fait, pourtant, pour calmer le jeu. Lors de leurs discours qui se sont suivis, mardi donc, les explications de notre correspondante à New York, Karine Houten.
Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide. Joe Biden a immédiatement répondu aux craintes d'Antonio Guterres et du reste du monde, inquiet de la montée des tensions ces derniers mois entre les États-Unis et la Chine. Le président américain l'admet, sur certains grands enjeux comme le climat, la pandémie ou la dénucléarisation de la péninsule coréenne, les solutions ne peuvent être trouvées sans une coordination des deux puissances. Mais Joe Biden prévient tout de même, les États-Unis ne laisseront jamais un petit pays se faire envahir. On pense au contentieux de Taïwan immédiatement. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Xi Jinping de parler. Comme son discours de l'an dernier, il se pose en grand adepte du multilatéralisme, avance la nécessité du dialogue et de la coopération. Joe Biden n'étant plus dans la démarche de rupture de Donald Trump, les mots du président chinois font étrangement écho à ceux de son homologue américain. Il réclame aussi le droit à la Chine de prendre sa place de superpuissance pleinement. Ils ont tenté de rassurer, mais le statu quo semble rester bien fragile.
Emmanuel Macron et Joe Biden, justement, se sont entretenus au téléphone mercredi après-midi. Après cet entretien, les deux chefs d'État ont publié un communiqué conjoint et ont annoncé une prochaine rencontre. La page de la crise diplomatique engendrée par la rupture du contrat entre la France et l'Australie pour la fourniture de sous-marins est-elle tournée, Valérie Gaz?
L'Élysée avait préparé le terrain en expliquant quelles étaient les attentes d'Emmanuel Macron avant l'entretien avec Joe Biden. Une manière de permettre de constater que le communiqué conjoint publié après l'échange reprenait point par point les demandes françaises. Le président américain a reconnu qu'une concertation préalable aurait évité la crise et a accepté d'engager des consultations pour restaurer la confiance. Pas question pour autant de dire à Paris que désormais tout va bien, même si l'ambassadeur français va rentrer à Washington la semaine prochaine. À l'Élysée, on se refuse à donner des indications sur le niveau de cordialité de l'entretien et on explique que le communiqué donne les voies du réengagement de la relation bilatérale mais ne dit pas si elles seront conclusives. Traduction, on attend de voir, notamment ce qui aura avancé d'ici la fin du mois d'octobre quand Emmanuel Macron et Joe Biden feront le point lors d'une rencontre en face à face. Emmanuel Macron ne peut se contenter de promesses s'il ne veut pas prêter le flanc aux critiques de l'opposition nationale. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en tête qui ont déjà dénoncé la capitulation du président français.
Et les Européens ont exprimé leur solidarité avec Paris dans la crise de ses sous-marins avec les États-Unis et souligné l'importance de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Je vous rappelle que d'autre part, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Boris Johnson à sa demande, dit-on à l'Élysée. Hier, le président français attend des propositions. Nous sommes en compagnie de Sédik Abba, qui a écrit, je le rappelle, ce livre de référence qui s'intitule « Pour comprendre Boko Haram », publié aux éditions L'Harmattan. Que faut-il penser de cette crise ? On pourrait dire en ironisant que la seule victime pour l'instant, c'est les ambassadeurs qui ont été rappelés, ils vont revenir dans leur pays. C'est bien fatigant pour eux avec ces décalages horaires.
Absolument. Non, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec vous que les seules victimes, ce sont ces ambassadeurs qui sont obligés de faire une valise pour venir et de faire une valise pour retourner lorsque le politique aura décidé. Et je me demande à quoi a servi leur voyage puisque sur le fond. ils sont venus, ils repartent sans que tout cela ait duré et sans que finalement leur voyage ait permis d'obtenir quoi que ce soit. Sur le fond, comme il a été dit dans le sujet, les Américains n'ont rien cédé. Et le contrat a été remis en cause, il n'y aura pas de concession. Il y a eu dans le communiqué auquel le sujet fait référence, il y a une petite phrase qui dit que les Américains s'engagent à de meilleures concertations prochainement et s'engagent à renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel sans qu'on comprenne véritablement
ce
que ça veut dire. Déjà, les Américains apportent une aide à la France dans son action antiterroriste.
Une aide importante d'ailleurs,
importante. 40% par exemple du ravitaillement à l'air est assuré par l'aviation américaine. Au moins un tiers du transport de troupes est assuré par les Américains et le renseignement est essentiellement fourni. On a célébré récemment les succès de Barkhane dans la neutralisation, comme disent dans le jargon militaire, de Droukdel et puis de Abu Adnan al-Sahraoui plus récemment. Tout cela, je pense, on le doit aux Américains qui ont la meilleure capacité de renseignement dans la zone. Maintenant, la déception, c'est que si c'est cela la concession des États-Unis dans cette crise, on aurait aimé que la France obtienne des États-Unis que la force conjointe du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7, ce qui lui aurait permis d'avoir un financement pérenne. Les Nations Unies sont d'accord, la France est d'accord, les pays du G5 sont d'accord. C'est l'administration Trump qui avait refusé et l'administration américaine, depuis son arrivée, n'a pas changé cette position. On aurait aimé, à la faveur de cette crise, peut-être que la France obtienne cette concession énorme. Elle ne l'a pas obtenue et comme vous l'avez dit en début d'introduction de ce sujet, finalement, on a l'impression que les seules victimes, ce sont les ambassadeurs qui ont dû aller au pressing, refaire leur costume et puis faire leur valise et puis retourner maintenant.
On les plaint, effectivement, Sédic. Il y a quand même cette question de l'autonomie militaire européenne qui a été soulevée à nouveau.
Ah oui, absolument. Il y a, comme on s'en souvient, le président français a eu cette formule célèbre, l'OTAN est en état de mort cérébrale, à l'époque avait-il dit, ça avait suscité une certaine incompréhension des Américains. Mais c'est clair que la réflexion, c'est aujourd'hui, est-ce que un continent peut continuer à sous-traiter, parce que la sécurité de l'Europe est quasiment assurée par l'OTAN. L'OTAN, quand qui dit OTAN aujourd'hui, dit États-Unis. Est-ce que l'Europe va continuer? Ce chemin a pu avoir du sens, a pu être pertinent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, est-ce que l'Europe n'a pas intérêt à s'autonomiser? On sait que l'Europe est divisée sur la question.
Oui.
Il y a un courant qui est toujours favorable à la prééminence de l'OTAN, un autre courant indépendantiste qui est porté par la France, qui veut que l'Europe s'autonomise, puisque comme on sait, le général de Gaulle avait retiré la France de l'OTAN et après il y a eu le retour de la France.
Oui.
Et aujourd'hui, bon, je pense que la réflexion va avancer et que pour les Européens, tôt ou tard, pour moi en tout cas, le meilleur schéma, c'est que l'Europe de la défense puisse se faire, que l'Europe puisse être partenaire des États-Unis, mais sans être dépendant des États-Unis en matière de sécurité et d'armement.
Une semaine d'actualité.
Et disons un mot de l'actualité française. Maintenant, Sédic Abba, près de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, Emmanuel Macron dit donc vouloir réparer les injustices vécues par les harkis, ces Algériens qui ont choisi de servir la France avant l'indépendance. Harkis dont quelques descendants et représentants ont été conviés à une cérémonie à l'Élysée. Lors de son allocution, le président de la République leur a demandé pardon, Aram Bengué.
Je demande pardon, nous n'oublions pas. C'est en ces termes que le président de la République s'est excusé au nom de la France devant une partie de la communauté harki reçue ce lundi à l'Élysée. Cet acte fort de la part d'Emmanuel Macron signe désormais l'ouverture d'un nouveau chantier dans la gestion de ce dossier très sensible, celui de la réparation. En effet, le président de la République a annoncé une future loi de réparation, car pour lui, il est maintenant question de réparer les fautes qui ont été commises par la France vis-à-vis des harkis. Une commission nationale sera mise en place dans ce sens pour essayer de refermer des blessures restées ouvertes depuis 59 ans. Cette réparation, dont les modalités restent à définir, concernera d'abord les premières générations de combattants harkis, ensuite leurs veuves et leurs enfants qui ont vécu dans les camps de transit. Aujourd'hui, on estime à environ 800 000 le nombre de harkis et leurs descendants vivant en France.
C'est un geste important, mais qui arrive un peu tard, selon Gasmi Boisa, le président du Comité national de liaison des harkis.
C'est très important. C'est vrai que c'est arrivé un peu trop tard, parce que nos anciens ont disparu, mais c'est vrai que c'est important qu'ils le disent. Et c'est un discours qui va dans le sens de l'attente de la communauté en général. C'est un discours que c'est vrai qu'il va dans le sens de nos attentes. C'est vrai qu'il a reconnu nos souffrances, officiellement. C'est vrai qu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale pour aboutir à une loi de reconnaissance, à une vraie réparation, digne de ce nom. Nous allons attendre, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça va dans le sens de l'attente de la communauté harkie.
Propos recueillis par Ram Bengue. Parlons de la primaire écologiste maintenant, Sedi Kaba. C'est un second tour très ouvert qui se tiendra à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi. Celui qui opposera les deux finalistes de la primaire écologiste pour la présidentielle française, Yannick Jadot, arrive en tête, mais rien n'est joué pour l'eurodéputé qui affrontera au second tour l'écoféministe Sandrine Rousseau qui le talonne. L'eurodéputé Yannick Jadot revendique une écologie de gouvernement, entre guillemets, et l'universitaire Sandrine Rousseau une écologie radicale. Les deux finalistes ont débattu sur la chaîne LCI de façon plus musclée que lors du débat du premier tour. Anthony Latier.
La terre se réchauffe, mais face à cela, Yannick Jadot est trop tiède aux yeux de Sandrine Rousseau.
Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'accéder au gouvernement pour gouverner.
Notre responsabilité, ça n'est pas de faire demi-mesure, Yannick.
Mais ça n'a rien à voir avec l'écologie de gouvernement. Si gouverner, c'est renoncer, à ce moment-là, je crois qu'il ne faut plus faire de la politique.
L'écologie de gouvernement que tu proposes est une écologie qui ne va pas au bout du chemin.
Elle cherche à se montrer la plus courageuse, la plus radicale, mais pour Yannick Jadot, elle manque de réalisme. Par exemple sur sa proposition de taxe carbone.
Si une personne touche 885 euros et qu'à chaque fois qu'elle va faire un plein, c'est 100 euros, ça ne va pas le faire.
Non mais c'est pas 100 euros, c'est 6 centimes de plus. Non mais Yannick, là c'est toi qui agites les peurs par exemple, tu vois.
Plus d'impôts, c'est la seule solution pour financer la transition, dit Sandrine Rousseau. Yannick Jadot préfère augmenter la dette. Débat agité sur la fiscalité, mais tous les deux promettent de soutenir le ou la vainqueur de la primaire.
Mais oui, avec grand plaisir.
Si nous ne sommes pas unis, rassemblés, quelle serait notre légitimité à rassembler les Françaises et les Français.
Tout est bien qui finit bien donc, même si ce sont bien deux lignes qui se sont affrontées.
Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Sedi Kaba. Le débat chez les Verts vous intéresse ou pas?
Ah oui, absolument. Oui. Non, la question écologique est une question centrale. Pour moi qui viens de l'est du sud-est du Niger, dans le bassin du lac Tchad, la question écologique m'interpelle. On a vu le lac Tchad s'assécher. Quand nous, on était jeunes, et Dieu sait que je ne suis pas trop vieux, le lac était déjà au Niger, il était à Ningimi, à Balabolim. Des gens comme Adam Maina sont allés s'amuser au lac Tchad, qui même s'il est devenu aujourd'hui important. Le lac s'est rétréci aujourd'hui au point où il a quitté le Niger du fait du changement climatique, de l'évolution de l'écologie. Donc la question écologique est une question centrale. Au Sahel, c'est même une question de survie. Vous savez, Pierre-Edouard, au Sahel, l'agriculture, la production alimentaire repose sur la pluviométrie. Moins il pleut, moins il y a de production. Or, le changement climatique a fait qu'aujourd'hui, il pleut beaucoup moins au Sahel et les gens du Sahel, en plus de la situation sécuritaire qui leur est imposée, ont des problèmes pour se nourrir. C'est pour cette raison que la question écologique, quel que soit l'endroit du monde où elle est débattue, m'intéresse et en tant que écolo, en tant que personne quand même qui pense que on doit se préoccuper de l'avenir de la jeunesse, l'avenir des jeunes, la planète qu'on va leur laisser en héritage. Ce débat m'a beaucoup intéressé.
Ou alors il y a de la pluie, mais trop brutale, sur un laps de temps assez court. Je pense notamment à votre pays d'origine, Sédic, le Niger, où on en est à 70 morts et plus de 200 000 sinistrés depuis le mois de juin à cause de pluies inhabituelles.
Absolument. Et ça, c'est très intéressant de montrer cette image. Par exemple, le lit du fleuve Niger s'est rétréci, s'est retiré, au point où les gens n'ont pas, sont venus construire, parce que le fleuve n'est pas venu depuis 40 ans à cet endroit-là. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, le fleuve est revenu à son lit 40 ans après. Donc les maisons qui ont été construites là ont été complètement dévastées par le retour du fleuve. Et c'est la même chose. On a pensé qu'il ne va plus pleuvoir assez. Et les maisons ont été construites en matériaux non résistants. Et la pluie est venue, il a plu 140 mm en un jour, 140 mm en une pluie, au Sahel, ce n'est jamais arrivé. Et tout ça est l'effet du changement climatique et ça a les conséquences que cela a pu avoir, des gens qui sont décédés, des infrastructures construites à des milliards qui ont été détruites. Et je pense que cela doit nous interpeller et doit nous amener à comprendre qu'il y a aujourd'hui une nécessité justement de réfléchir au type de monde dans lequel on veut vivre, un monde plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de la question écologique. Et je pense que dans nos pays du Sahel, on a intérêt à réfléchir à une politique vraiment qui mette l'environnement au centre de nos préoccupations autant que la sécurité.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez à nous écrire en ce début de nouvelle saison d'une semaine d'actualité. Un bonjour aujourd'hui à Abdoulaye, à Bertois au Cameroun, à Moussa, à Rabat, à Sama, à Lomé. Salutations à Moser, à Porto Novo, à Julien, à Ouagadougou, à Arthur Ulrich, à Douala. Enfin, un salut à Hadji, à Boaké en Côte d'Ivoire et à Mohamedou, à Maroua au Cameroun.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Afrique, Sidi Kaba, et revient d'abord sur la tentative de coup d'État que les autorités soudanaises disent avoir déjoué cette semaine. Khartoum accuse des partisans de l'ex-président Omar el-Béchir d'en être à l'origine pour nuire au fragile, on le sait, processus de transition en cours. Les autorités disent avoir procédé à des arrestations et assurent que la situation est sous contrôle. Explication de notre nouvelle correspondante en Afrique de l'Est, Florence Maurice, à Nairobi.
En dépit des chants patriotiques diffusés mardi en boucle à la télévision publique, c'est bien les fractures au sein des autorités de la transition soudanaise que ce putsch manqué met une fois de plus en lumière. Dès mardi, le numéro 2 du Conseil souverain, le chef paramilitaire Hamdan Aglo, dit Hemeti, accusait les politiciens d'en être indirectement responsables. Hier, il a récidivé, reprochant à ces politiciens d'avoir négligé les citoyens et les services de base, trop occupés par leur lutte de pouvoir, ce qui aurait selon lui engendré un mécontentement général et offert l'occasion, je cite, de cette tentative ratée. Sans surprise, le Premier ministre Abdallah Hamdok, chef de file de la composante civile de la transition, fait l'analyse inverse. Affaibli par un contexte économique morose, lui voit dans ce coup avorté, attribué notamment à des officiers de l'armée, la preuve qu'il est nécessaire de faire avancer l'épineuse réforme du secteur de la sécurité. Une réforme freinée entre autres par le refus des métis d'intégrer ses forces de soutien rapide au sein d'une armée sous commandement unifié. Dans ce contexte, la crainte exprimée par plusieurs analystes est que ce putsch manqué et derrière lui le spectre d'un retour au pouvoir de l'ex-président ne puisse être utilisé comme un prétexte pour faire durer la transition censée aboutir à un transfert du pouvoir au civil.
Les relations tendues pour le moins entre l'Algérie et le Maroc se sont encore dégradées mercredi avec l'annonce de la fermeture de l'espace aérien algérien aux voisins marocains accusés de provocations et de pratiques hostiles. Fin de citation. Cette décision a été prise un mois après l'annonce, le 24 août dernier, par l'Algérie de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays rivaux du Maghreb. Guillaume Thibault.
Effet immédiat, à peine annoncée, la décision prise ce mercredi par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a été appliquée, ne laissant aucun répit aux autorités marocaines. Concrètement, tous les avions civils et militaires marocains, mais aussi tous les appareils immatriculés au Maroc, n'ont plus le droit de survoler l'immense territoire algérien. Comme pour justifier fin août la rupture des relations diplomatiques, Alger estime que le Maroc poursuit ses provocations et pratiques hostiles. Signe que la tension entre les deux voisins ne fait que s'amplifier. Mardi, Ramtam Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, s'est fait menaçant en déclarant sur CNN qu'une telle situation ne pouvait durer davantage sans causer de dommages, qu'elle risquait de mener les deux pays vers une voie non souhaitable. Alors que les vols commerciaux entre les deux capitales, Alger et Rabat, sont stoppés depuis le début de cette crise, les voyageurs transitaient via Tunis, cette interdiction de survol de l'espace aérien algérien va rendre encore plus complexes les liaisons entre les deux États. La Royal Air Maroc va devoir également, dans l'urgence, revoir ses plans de vol vers le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est.
Sidi Kaba, voilà une vieille histoire, ce conflit entre l'Algérie et le Maroc à propos du Sahara occidental.
Absolument. Non seulement c'est une vieille histoire, mais au-delà de l'Algérie et du Maroc, dont on peut regretter la relation puisque c'est deux pays voisins. Et je rappelle que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est formée officiellement depuis 1994. À la suite de ça, il y a eu la rupture des relations diplomatiques le 24 août. Et aujourd'hui, on arrive à cette interdiction de survol. Ce qui est le plus attristant, c'est qu'au-delà de la relation entre l'Algérie et le Maroc, cette rivalité prend en otage le reste du continent. La construction de l'unité africaine se trouve retardée parce que, comme on sait, l'Afrique a choisi de se construire par blocs régionaux, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, la région qui est la moins intégrée, la région qui est la plus en retard sur le plan de l'intégration régionale, c'est le Maghreb. Le taux de change entre les pays maghrébins ne dépasse pas 3%, alors qu'il est de 26% en Afrique de l'Est. Et sur le plan diplomatique aussi, les pays se retrouvent dans l'obligation de choisir un camp. Oh, vous voyez, ça crée des difficultés. La question du Sahara occidental, qui était le cœur de la rivalité algéro-marocaine, a pu être gérée avec une certaine intelligence, puisque depuis janvier 2017, le Maroc est revenu dans l'Union africaine et on a pensé que on allait partir vers des relations plus apaisées entre les deux pays et que cela permettrait à ces deux locomotives de l'Union africaine de pouvoir s'entendre et de pouvoir entraîner par leur entente le reste du continent. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce grave recul et avec les risques d'une confrontation ouverte entre les deux pays qui aurait des conséquences au-delà de leur seul territoire sur le reste du continent, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan économique et sur le plan politique. Il y a d'autres urgences, le continent a d'autres urgences. Je suis sûr aussi que ces deux pays ont d'autres urgences que de se laisser entraîner dans une spirale qui peut conduire jusqu'à une guerre. On ne peut pas écarter aujourd'hui le risque avec ce qui se passe d'une confrontation ouverte, y compris sur le plan militaire entre l'Algérie et le Maroc, ce qui serait regrettable pour les deux pays, mais aussi pour le reste de l'Afrique.
Le Soudan s'est dit qu'avec apparemment une tentative de coup d'État, on parlera tout à l'heure des coups d'État en Afrique qui reviennent, un processus de transition qui est plus que jamais menacé et une volonté apparente d'Omar el-Béchir de revenir au pouvoir, lui qui a été chassé par le peuple, il faut le rappeler. Hein.
Absolument. Et les investigations ont permis de rassembler des éléments qui orientent justement vers la responsabilité des gens qui lui sont proches, de nostalgiques de son régime pour essayer de rétablir l'ordre ancien qui a été justement chassé par la rue à partir de décembre 2019. On se souvient, les manifestations de riz liées au contexte économique et politique ont chassé du pouvoir el-Béchir. Et aujourd'hui, certains nostalgiques veulent qu'on revienne à ce pouvoir-là, et malgré le fait que la transition ait permis quand même d'obtenir des résultats concrets. Le Soudan a renoué avec la communauté de bailleurs de fonds. Aujourd'hui, il est devenu un client auquel on peut prêter de l'argent. Le Soudan a été enlevé de la liste des États qui soutiennent le terrorisme par les États-Unis. Donc, au lieu de permettre de consolider ses acquis pour avancer et aller vers la fin de la transition, il y a ces tentatives de déstabilisation de la transition qui, à mon avis, dans le cas particulier du Soudan, faut-il le rappeler, la concession a été faite d'avoir une transition de 3 ans, et 18 mois gérée par un militaire, 18 mois gérée par un civil. Tout cela pour permettre au pays de repartir sur de nouvelles bases. Et ces types de tentatives de coup d'État peuvent retarder la transition et peut-être même la faire dérailler. Il faut prendre garde à ce que cela n'arrive pas parce que le Soudan tient un rôle stratégique dans cette sous-région et même dans le continent africain.
Sept jours en Afrique.
Partons pour le Bénin. Maintenant, Sadi Kaba, la gestion de la démocratie et des libertés du président Talon est, on le sait, décriée par ses opposants et les ONG internationales. Le climat est donc tendu et les exigences de l'opposition de prendre des mesures pour décrisper le climat politique sont restées jusqu'à présent sans suite. Mais mercredi, Patrice Talon a reçu au palais présidentiel son prédécesseur Boni Yayi pour la première fois depuis 2016. Alors est-ce le signe d'une décrispation ? Jean-Luc Aplogan à Cotonou.
Jusqu'ici, l'opposition formulait ses revendications à l'occasion des meetings, des points de presse ou via les réseaux sociaux. Boni Yayi a décidé de les porter directement au président Talon, dans son palais et sans témoin. La démarche est nouvelle. Du coup, cette rencontre inimaginable encore la veille est interprétée par des observateurs comme le début d'un processus. Alors, question, les deux hommes sont-ils maintenant prêts à tourner la page et à faire des concessions de taille? Publiquement, Patrice Talon n'a rien dit des réclamations de son prédécesseur, à savoir la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Mais il n'y a pas que ça. Le calendrier électoral béninois prévoit des élections législatives en 2023. Boni Yayi n'a pas évoquer le sujet, mais il compte beaucoup pour l'opposition qui souhaite que les verrous qui l'ont privé des législatives en 2019 et de la présidentielle en 2021 sautent. N'allons pas plus vite que la musique, tempère un observateur averti, attendant les signes de chaque camp politique dans les jours à venir.
La situation politique au Bénin et dans toute l'Afrique et dans le monde entier est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr, bien sûr. En Guinée, c'est dit que le CNRD, c'est-à-dire le Comité National du Rassemblement et du Développement, poursuit sa concertation avec les différentes franges de la société du pays. Jeudi, la junte a reçu le corps médical ainsi que les organisations de jeunesse et de femmes. Malgré de nombreux efforts, la condition féminine reste inquiétante dans le pays qui figure parmi ceux qui ont le plus fort taux d'excision. Les jeunes ont également tenu à faire entendre leurs attentes. Le reportage de notre envoyé spécial à Conakry, Sidi Yansané.
Des dizaines d'organisations féminines et de jeunes ont répondu à l'invitation du CNRD pour exposer leurs doléances au Palais du Peuple. Particulièrement exposées aux violences et discriminations liées au genre, les femmes exigent principalement l'application effective des lois censées les protéger et une implication beaucoup plus forte dans les affaires d'État et de l'économie. Maïmouna Diakabi est la secrétaire générale de la Fédération des jeunes femmes de Guinée.
Les études ont montré que la participation des femmes au niveau des États, au niveau des entreprises, permet un meilleur résultat. Étant donné qu'on est la moitié du ciel, comme le disait Sankara, nous voudrions qu'il y ait parité au niveau du gouvernement, qu'il y ait égalité de chance dans le domaine du travail, que ce soit pour les femmes des marchés jusqu'au niveau du gouvernement.
La jeunesse, qui représente la majorité de la population, estime avoir toujours été manipulée et délaissée par les politiques. Pour en finir avec ce désœuvrement, la directrice exécutive du Club des jeunes filles leaders de Guinée, Kadiatou Konaté, plaide pour la création d'un conseil national.
Je pense qu'on est largement revenu sur la question où les organisations de jeunesse ne sont pas fédérées. Donc obtenir un cadre de concertation, c'est obtenir un conseil national de jeunesse. Dans la sous-région, tous les pays presque disposent d'un conseil national de jeunesse qui porte la voix des jeunes, excepté la Guinée.
En attendant l'installation du gouvernement de transition, le président du CNRD se montre rassurant en promettant du sang neuf et qu'il n'y aura pas de recyclage des habituels dignitaires de l'État.
Avant de vous retrouver, c'est dit que partons dans la région du Sahel. Près de 30 personnes ont été tuées au Tchad depuis dimanche, dans l'est du pays, dans des affrontements entre deux communautés, un conflit récurrent que les autorités n'arrivent pas à endiguer. Et mardi, veille de la fête nationale qui célèbre cette année les 61 ans d'indépendance du Mali, le ministère de la Culture a organisé la première édition de la Nuit de la Paix, une soirée de rassemblement festif autour de ce que l'on appelle le vivre ensemble et qui met en valeur les différences et spécificité des différentes populations du pays. Reportage de Kaourou Magassa.
au son de l'Orchestre National du Mali, Talata Dounion et Rokiatou Diallo trépignent d'impatience dans les coulisses du centre de conférence de Bamako. Dans quelques minutes, elles monteront sur scène pour un tour de chant devant des centaines de personnes et en direct sur la télévision nationale. Lors de cette cérémonie, les deux femmes représentent la région de Mopti, une zone en proie au terrorisme et au conflit communautaire.
Je suis Peul et ma partenaire est Dogon. Nous allons chanter en Bambara et en Dogon. Nous allons chanter la paix car nous voulons que les conflits entre ethnies cessent et que le Mali retrouve sa cohésion d'antan, que nous ne formions plus qu'un.
Au fil de la soirée, chaque région administrative est invitée à se produire. Plusieurs styles musicaux sont mis à l'honneur. Le rythme takamba succède au chant des cantatrices avant que les guitares utilisées pour le blues touareg se fassent entendre. Dédomé Saoud est un musicien de Taoudéni.
Je suis vraiment très ému de retrouver les autres camarades des autres régions ensemble ici. C'est ça la fierté du Mali, cette diversité.
À ses côtés, Doundo Keïta est membre de la troupe de la région de Kaï.
Par ces genres d'événements, on se côtoie, on se connaît. Nous partageons la même chambre que les amis de Gao, de Kidal, de Menaka. Et là, pendant ce jour-là, on va se connaître un peu, savoir amoindrir les préjugés.
Dans un pays en guerre, cette cérémonie est le symbole de la cohésion sociale et du vivre ensemble que le Mali recherche. Kaourou Megassa, Bamako, RFI.
Voilà une manifestation intéressante et optimiste que ce rassemblement.
D'autant plus importante que dans le contexte sécuritaire du Sahel et celui du Mali, les groupes djihadistes, les groupes non armés, les groupes armés non étatiques, comme on dit, les GAN, ont essayé d'alimenter les incompréhensions, d'essayer de briser la cohésion sociale et le vivre ensemble en opposant les communautés les unes aux autres. Pour un peu comment pallier les insuffisances des forces de défense et de sécurité, certains pays avaient choisi de créer des milices et la création de ces milices a entraîné des incompréhensions, souvent des affrontements interethniques. Et le fait de rappeler à l'occasion d'un événement comme celui-là la tradition du vivre ensemble, de la cohésion sociale entre les Touareg, les Bambara, les Peul, je pense que c'est une bonne chose et ça permet justement d'allumer un contre-feu par rapport à la tentative des groupes djihadistes d'opposer les ethnies les unes aux autres qui ont toujours vécu dans la bonne harmonie et dans la bonne intelligence.
Parlons de la Guinée maintenant, Sédi Kaba. Germain, qui habite à Boujimaï en RDC, s'interroge pourquoi pas d'intervention militaire en Guinée. El Boubacar vous pose aussi la question sur votre réaction au coup d'État qu'il y a eu à Conakry. Fulciano, qui vit au Bénin, s'intéresse aussi à la même chose. Emmanuel Alexandre, qui vit à Conakry. Siradio à Conakry. Il y a énormément de questions sur ce retour, disent nos auditeurs, des coups d'État en Afrique.
C'est tout à fait exact. La réflexion sur la forme politique qu'il y en a en Afrique, nous l'avons engagée depuis très longtemps avec des amis quand nous étions déjà au lycée, comme Adam Maïna, dans le cadre d'une structure qu'on a appelée Fantôme, qui avait même une publication, depuis très longtemps. Et c'est à juste raison que nous avions participé en février 1990 aux manifestations pour la démocratie et le multipartisme au Niger. Et certains, comme Adam Maïna, comme Issaka Kainé, ont payé de leur vie ou de leur état physique cet engagement pour la démocratie. Parce que nous étions persuadés que l'Afrique n'avait plus besoin de coup d'État et qu'il faut mettre un terme au coup d'État. Si les coups d'État aujourd'hui reviennent, c'est aussi, à mon avis, de la responsabilité de ceux qui ont en charge la gestion de nos pays. Parce que le coup d'État ne peut intervenir que lorsqu'on crée les conditions du coup d'État. La confiscation de la démocratie, la criminalisation de l'opposition, les atteintes aux droits de l'homme. Le mandat de trop crée des conditions du coup d'État. Et de sorte que je pense que quand on voit la réaction de la CEDEAO et d'autres organisations, on risque de passer à côté de la solution. Il ne s'agit pas simplement de dire que tout celui qui prendra le pouvoir par la force, voilà les sanctions. Il faut aussi punir ceux qui créent les conditions du coup d'État. Par exemple, dire que à partir d'aujourd'hui, le fait de faire un troisième mandat, de modifier la Constitution sciemment pour faire un troisième mandat, équivaut à un coup d'État et doit appeler aux sanctions. Si on ne résout pas ceux qui précèdent le coup d'État en ne voyant que le coup d'État, on risque de passer à côté. Les coups d'État sont revenus parce qu'il y a une confiscation, parce qu'il y a un recul de la démocratie. ceux qui viennent, qui font leur deuxième mandat et qui veulent rester, créer les conditions pour que les militaires aient un prétexte, parce qu'ils offrent aux militaires le prétexte de venir. Et s'il n'y a pas ce prétexte-là, je ne vois pas l'armée revenir. Et si on veut éviter que le coup d'État persiste en Afrique, il faut aussi le respect de la démocratie, le respect de la limitation de mandat, le respect de l'indépendance des institutions, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, tout cela doit être en harmonie. Et c'est la seule solution d'éviter le coup d'État. Ce n'est pas une intervention extérieure, ce n'est pas les menaces contre ceux qui vont prendre le pouvoir. C'est une solution globale qu'il faut envisager pour mettre fin au coup d'État en Afrique.
En tout cas, bon, c'est une question qui intéresse aussi Bourgeois, qui nous écoute à Pala en ce moment même, dans le sud du Tchad. En tout cas, en Guinée, la concertation se poursuit entre les membres de la junte, le CNRD et la population, les différentes franges de la population.
Je crois que c'est très bien qu'il y ait une concertation, une large concertation, pour définir les conditions d'un nouveau départ pour la démocratie en Guinée. La Guinée a connu 3 coups d'État. À la mort de Sékou Touré, il y a eu un coup d'État. À la mort de Lansana Conté, il y a eu un coup d'État. Aujourd'hui, il y a un coup d'État. Sékou Touré étant décédé en 1984, il n'y a pas trop longtemps que le pays a connu une succession de coups d'État. Si on veut en sortir, il faut créer les conditions d'un nouveau départ avec des institutions fortes, avec des acteurs politiques qui respectent le jeu démocratique, qui respectent la limitation de mandat. Et on avait espéré que le président Alpha Condé, qui est un opposant historique, qui a fait 50 ans d'opposition, allait éviter au moins qu'on arrive à un coup d'État.
Alors, je reviens à votre livre pour conclure, pour comprendre Boko Haram. Comment est la situation en ce moment dans la zone concernée, Nigeria et le bassin du lac Tchad et toute cette zone?
Il y a quelques frémissements, notamment au Niger, où il y a un changement de paradigme avec le retour des populations dans leurs villages, ce qui, de mon point de vue, est une excellente chose, parce que si on veut avoir une solution durable au-delà de la solution militaire et sécuritaire, il faut créer les conditions pour que les populations aient les moyens de leur survie. Si on les prive de la pêche, si on les prive de la culture de la pêche, si on les prive de la culture du poivron, on les fragilise et on les rend vulnérables à Boko Haram. Il y a un deuxième élément important, c'est qu'au Nigeria, il y a une vague de reddition. Il y a beaucoup de partisans de Boko Haram qui se rendent aux autorités. Et on parle de près de 5000 personnes qui se sont rendues. Je pense que si tout cela se poursuit, il y a des chances que la situation s'améliore. C'est pas demain que Boko Haram va totalement disparaître. Même le décès de Shekau n'a pas véritablement changé les choses sur le plan militaire et sur le plan idéologique pour Boko Haram. Mais en travaillant sur ces solutions, repentir contre, pardon, la vie au Niger, et aussi en travaillant sur le développement, l'écologie, en recherchant une solution holistique, on peut envisager un début de solution à ce problème de Boko Haram qui fait écho à ce qui se passe au nord du Mali et dans le Sahel.
Merci Sedi Kaba, journaliste spécialiste de la région du Sahel, auteur donc de « Pour comprendre Boko Haram » aux éditions L'Harmattan, répétons-le, avec une nouvelle édition bientôt, dans les semaines qui viennent.
C'est tout à fait exact, une édition revue et augmentée, avec l'analyse sur la disparition du président Déby et une réflexion sur Boko Haram après Shekau.
Une semaine d'actualité et à bientôt.
C'est toujours un plaisir de venir à cette émission qui, j'ai dit, je répète, pour moi, une émission indémodable que j'écoute quand je ne suis pas à l'antenne.
Vous nous rassurez. Merci, Cédric. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées et nous serons en compagnie de l'historien Olivier Grenouillot, grand spécialiste de la question de la traite négrière. Et avec lui, nous parlerons de son dernier grand livre en date consacré aux chrétiens face à l'esclavage, un essai ambitieux qui tente de comprendre comment le christianisme de ses débuts à aujourd'hui à appréhender l'esclavage. Idée demain dimanche à 15h10 temps universel, 16h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.
Géopolitique, le débat.